Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Je reçois le message d'une amie. Monseigneur Somali, évêque auxiliaire, vicaire général du patriarcat latin de Jérusalem, nous fait la demande suivante. Aujourd'hui, à Gaza, la priorité, c'est l'arrêt de la guerre, un cessez-le-feu, une trêve, l'échange des otages et des détenus. Tout cela pour faire entrer beaucoup d'aide. C'est cela que nous voulons pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire en plus grande quantité à Gaza. Les réseaux sociaux portent des milliers de réactions et d'appels de ce genre. Le bruissement des échanges s'intensifie. Et puis il y a cette déclaration, le 5 mars, du Conseil d'Église chrétienne en France. Nous, responsables religieux chrétiens de France, sommes solidaires de toutes les victimes de la guerre entre Israël et le Hamas et appelons au cessez-le-feu. Porteurs des valeurs de l'Évangile, nous souffrons de la désespérante situation que connaissent plus de 2 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza. Nous tenons à affirmer que la restriction d'accès à des ressources essentielles telles que les soins médicaux, la nourriture et l'eau est fondamentalement inhumaine. Une histoire. Nous allons évoquer une histoire de la lutte non violente en France dans les années 1970. C'est la lutte des 103 paysans du Larzac pour garder leurs terres contre le projet d'extension du camp militaire. Cette histoire commence en 1972 et c'est Arnaud de Mareuil qui nous la raconte. Arnaud de Mareuil, c'est un proche de Lanza del Vasto, un poète. Il a écrit sur ce philosophe chrétien que Gandhi appelait Shantidas, serviteur de paix, il a écrit une biographie. Le Larzac, c'est un plateau venteux, au riche fond de vallée. C'est pour nous le Causse le plus proche, à l'entrée de Millau. Il est resté jusqu'à ce jour tout à fait à l'écart de l'actualité nationale. Or, sans crier gare, le ministre des Armées, Michel Debré, a décrété l'extension du camp. 103 paysans et leurs familles ont appris par la radio qu'ils allaient être spoliés de leurs terres. Un cortège de protestation a défilé à l'automne, des jeunes gens brandissant des pancartes que les paysans ont observées en spectateurs, songeant plutôt à fourbir leurs carabines. S'il faut se défendre, on se défendra. Avec l'énergie du désespoir, on prendra le maquis. Le 17 mars 1972, au sortir d'une table ronde avec l'abbé Toula, le pasteur Cruz et Jean-Marie Muller, Lanza del Vasto s'établit au village de la Cavalerie, au cœur du Larzac, dans une ferme, pour un jeûne de 15 jours. Le maire et le curé du lieu sont partisans de l'extension du camp, espérant en tirer qui de bonnes affaires, qui des aumônes substantielles. Rapidement, entre Shantidas et l'ensemble des paysans, une amitié va naître. Chaque soir, une délégation d'hommes et de femmes laissant le troupeau de moutons, on travaille pour les caves de Roquefort, un voisin vient écouter les explications du jeûneur sur la non-violence. Demain, c'est le voisin qui viendra et on lui traira ses brebis. L'aumônier d'Action catholique réunit périodiquement cette population très chrétienne autour de liturgie, de partage d'évangile. C'est justement de l'évangile que Lanza del Vasto affirme tirer sa méthode de résistance et sans recours au fusil. Shantidas a rédigé une lettre au ministre, une autre au président de la République. Le ton est ferme et courtois. L'argumentation s'appuie sur une information approfondie. À la rupture du jeûne, le Larzac est devenu une affaire publique. Des milliers de manifestants se pressent dans le pré le 3 avril. Les paysans ne sont plus isolés. Des moutons, pas de canon, c'est le slogan. Le Larzac opte pour une lutte non violente. L'aventure, l'épopée durera 10 ans, jusqu'à la victoire. En chemin, les paysans vont s'ouvrir aux problèmes du monde, à la misère, à l'oppression, à l'injustice qui écrase le Sahel ou les îles du Pacifique, les Indiens d'Amérique ou les ouvriers polonais. Et tous ces groupes vont suivre passionnément le combat des 103 paysans du Causs. Arnaud de Mareuil donne dans ce livre le discours de Lanza del Vasto. Chers amis, paysans et bergers du Larzac, ce que je fais ici, un service de bon voisinage. Je ne vous connaissais pas, je savais seulement que vous étiez menacés et je suis venu offrir ces 2 semaines de ma vie. Or, si moi qui ne vous étais rien qu'un voisin, je fais ici mon devoir d'homme, combien plus vous qui vous connaissez depuis toujours et que le danger commun a rassemblé, devez-vous vous servir les uns les autres et rester unis pour le meilleur et pour le pire? Le succès de notre combat dépend de 2 choses. D'abord de la solidité de votre union, ensuite de votre fidélité à la non-violence active. Ne vous en écartez jamais, ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Vous voyez comme votre attitude noble et ferme touche l'opinion publique, vous attire le soutien de l'Église, suscite l'intérêt de la jeunesse. Le pouvoir se laissera gagner à son tour. 2 extraits de ce discours de rupture de jeûne. À cette époque, il y a un groupe d'enfants, les Poppies, qui chantent « Non, je ne ferai pas la guerre ». Arnaud de Mareuil a rassemblé dans ce livre quelques témoignages de ses paysans. Écoutons Pierre. Lanza del Vasto est arrivé sur le Larzac au moment où nous ne savions plus que faire, en 1972. De tous côtés, on nous pressait de passer à l'action radicale. Nous avons longuement hésité, jusqu'à ce qu'il nous guide vers la voie de la non-violence. Il ne nous l'a pas imposé, c'est nous qui avons fait le choix. Il a simplement proposé un jeûne qui a duré 14 jours et pendant ce temps, il nous a fait comprendre ce qui découlerait d'une réaction armée de notre part. Beaucoup d'entre nous étaient alors prêts à prendre les fusils. Lanza del Vasto paraissait parfois hautain et autoritaire à certains, et c'est vrai que ses paroles en imposaient autant que son aspect physique, mais en réalité il était très proche, toujours à l'écoute. Les maoïstes n'étaient pas crédibles auprès des paysans parce que trop théoriques. Lui savait mettre ses théories en pratique et avait conscience de nos réalités quotidiennes. Il y a un prix Nobel de la paix que l'on hésite à présenter. Il s'agit du Bureau international de la paix qui a obtenu le prix en 1910. Ce bureau, qui avait été créé en 1891, influença nombre de politiciens comme le grand public dans le domaine de la recherche de la paix, réussissant notamment à promouvoir ce qui prit finalement la forme de la Société des Nations. Mais son action n'a pas empêché la Première Guerre mondiale, ni la Seconde. Et on peut prévoir que son action n'aura que peu d'effet sur une extension du conflit ukrainien que les responsables politiques français et européens envisagent, réclament et préparent. Le but déclaré du BIP est de servir la cause de la paix au travers de la promotion de la coopération internationale et des solutions non violentes aux conflits internationaux. Cela est pratiquement identique aux objectifs initiaux de l'organisation. Sur son site internet actuel, il y a cette récente déclaration datée du 24 février de cette année, déclaration adoptée par l'Assemblée générale du mouvement pacifiste ukrainien. Courts extraits. Le mouvement pacifiste ukrainien soutient et mettra en œuvre dans ses activités les valeurs de paix, de démocratie et de justice. Nous sommes d'accord avec la condamnation de l'agression russe, les demandes de retrait des troupes et d'indemnisation des dommages. Nous résisterons de manière non violente à l'agression russe et à toutes les formes de militarisme et de guerre. La société et l'État doivent s'unir pour une résistance non violente et une protection non armée des civils. Ces propositions pacifistes sont largement inaudibles. Au mieux, elles font sourire, mais actuellement, elles sont plutôt combattues. Face à un président de la République qui dit qu'il ne faut rien exclure, de journalistes et de responsables politiques qui préparent les populations à l'engagement de moyens militaires nouveaux, seule la logique de guerre semble envisageable. On débusque et on relève tous les crimes de guerre et on fait bien, mais c'est aussi une façon de ne pas dire que la guerre est un crime. Car si la guerre est un crime, elle ne peut en aucun cas être une solution pour résoudre un conflit.